cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 17 novembre 1994.
Lors du dernier cours de philosophie du vivant, vous nous avez cité le cas de tentative de remplacement du sang humain par un sang animal. Un animal très évolué. Dans le cas d'une greffe humaine, il faut employer des médicaments anti-rejet pendant un temps relativement long pour le considérer que la greffe est une réussite. À quoi correspond ce temps de rejet? D'où provient ce rejet? Une adaptation. Si oui, pourquoi peut-on remplacer le cœur par une pompe qui n'a rien d'humain? Mais si l'âme ne fait que tolérer l'organe greffé ou son ersatz artistique, n'a-t-il pas un risque de ramener l'organe à sa fonction? Enfin, tout cela ne se résume-t-il pas ainsi? Qu'est-ce que ça signifie exactement lorsqu'on dit que l'âme informe le corps, qu'elle lui est substantiellement unie? Vous comprenez? C'est Dieu qui a pensé, je parle en philosophe, dans la lumière, sagesse divine. Parce que tous les cas limites, il faut les traiter dans une lumière de sagesse. C'est ça qu'il faut toujours se dire. Et ça ne peut se traiter que dans une lumière de sagesse. Autrement, je suis dans l'expérience. Et je ne peux pas donner les raisons. Dans une lumière de sagesse, Dieu a pensé une harmonie parfaite entre le corps et l'âme. C'est sûr, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le péché a marqué le corps pour faire que cette harmonie ne soit plus parfaite. D'où un poids terrible vers le point de vue du sensible. Nous sommes des êtres détraqués, plus ou moins. Il y en a qui arrivent à se cacher complètement. Ils sont comme ils sont. Et comme ils sont merveilleusement équilibrés. Oui, c'est possible. Mais l'équilibre n'est pas la finalité. L'équilibre, c'est la finalité du psychologue. Pour le philosophe, c'est la prudence qui n'est pas un équilibre, puisque c'est en vue d'une fin. Un être équilibré, c'est celui qui a tout en lui est finalisé, pas équilibré. Être parfaitement incorporé dans le noviciat, ce n'est pas une finalité. Ce serait très mauvais si de permettre, considérer que c'est ça la qualité dominante. L'équilibre n'est pas une finalité, grâce à Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas de barème, de critères. Pour l'équilibre, on pourrait donner un critère. Et même, l'équilibre de 15 ans n'est pas le même que celui de 25 ans, n'est pas le même que celui de 45 ans, n'est pas le même. Et ainsi de suite. Oui. Donc, il n'y a pas de critères. l'adoration. Vous êtes capable d'adorer, de contempler. La maladie font que certains organes se désagrègent et ont des fins anarchiques. On sait que le cancer, c'est une finalité anarchique. C'est une partie qui lutte contre le tout et qui se désagrège. La médecine, qui fait des progrès énormes, surtout au point de vue chirurgical, coupe cet organe anarchique. On le met en prison. On le rejette, on l'enlève. Si l'homme peut vivre sans cet organe, tant mieux. Il est allégé. S'il ne peut pas vivre sans cet organe, on essaie de faire des greffes. On sait que c'est toujours très difficile, très délicat, puisque, vous voyez, on est déjà fatigué, l'organisme est déjà fatigué à cause de ça. La greffe du rein, par exemple, c'est des choses les plus classiques et en même temps les plus délicates. Donc, si l'organe est fatigué, il est dans de mauvaises conditions pour assumer cet organe, même si on essaie de faire qu'il soit le plus proche possible, il est toujours un étranger, puisqu'il n'a pas le chiffre biologique de l'individu qui reçoit cette greffe. Donc il y a une lutte. Pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, il est assumé. Ou il n'est pas assumé. Il est rejeté. C'est le rejet. Et c'est fatal parce que ça montre bien ce que c'est que l'unité individuelle de chaque organisme. Il y a des conditions qu'on connaît plus ou moins pour que la greffe réussisse ou ne réussisse pas. C'est la même chose pour le sang. Quand on tombe malade et qu'on vous donne un sang qui n'est pas le vôtre, on sait très bien qu'il va y avoir une espèce de bataille interne. Puis il va y avoir un équilibre qui va se faire en vue de la finalité et qui a des conséquences qui fait que vous ne pourrez plus, peut-être, disent les médecins, recevoir tel sang et même peut-être n'importe quel autre sang, étant donné qu'il s'est formé des anticorps, qu'il s'est formé une lutte intestine, comprends. Tout cela montre l'unité individuelle de chacun et le chiffre biologique de chacun. Je crois que c'est ça que ça montre, avant tout. Et cette unité biologique est renforcée par l'unité substantielle de l'âme. Et il est tout à fait normal qu'un organe ajouté soit assumé par l'âme humaine lentement et quelquefois impossible. C'est tout à fait normal. Parce que cet organe a eu son unité vitale, son unité biologique, qui n'est pas celle de l'individu, puisque pour chacun d'entre nous, elle est différente. Oui, donc, on essaiera tout le temps de pouvoir essayer de voir si on peut mettre un organe de tout à fait extrinsèque d'un animal ou de très parfait. Puis ordinairement, ça ne va plus. Entre hommes, il y a un certain équilibre qui peut s'établir. Mais je crois que le passage de l'animal à l'homme ne se fait pas. On a cru à un moment donné pour le sang qu'on pourrait arriver. Et maintenant, on sait que c'est impossible. Vous voyez, tout ça montre, vous voyez, impossible. C'est très intéressant pour la question de l'origine de l'homme et de la femme. Et que l'évolution, vous savez bien, elle est actuellement, elle commence à être beaucoup battue en brèche. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que je vous ai déjà dit cette question qui m'intéresse, qui doit intéresser chacun d'entre nous. J'ai dû une fois, ayant été au Canada, au Québec, enseigner au Québec, à l'Université de Laval, on m'a confié en partant une thèse pour demander d'en faire la recension. Une thèse sur la doctrine de l'évolution au plan scientifique, philosophique et théologique. Doctrine de l'évolution. Et on montrait que c'était une doctrine panacée universelle. Je devais en faire sérieusement la critique. Et j'ai essayé de prendre tous les exemples qui étaient donnés en demandant à des savants. À Fribourg, c'était facile. C'était juste pas. Et c'est là où j'ai su pour la question du sang. Parce que là, on considérait que c'était quelque chose qui allait se réaliser. Or, pas du tout. C'était juste l'inverse. Alors, j'ai demandé à un histologue, il faut demander aux histologues, qui était un Alsacien français protestant, merveilleux. Alors, j'ai demandé. Alors, voilà ce qu'il m'a répondu. En tant qu'histologue, je suis contre l'évolution. Parce que je n'ai jamais constaté l'évolution. Jamais. Je ne l'ai jamais constaté. Pour moi, l'évolution, c'est une théorie philosophique qui englobe des quantités de cas. C'est plus ou moins vrai. Mais c'est de la philosophie, c'est pas de la science. Quand vous êtes entre philosophes, on vous dit l'évolution, c'est un fait scientifique. Donc vous devez le respecter. Alors vous voyez, ça m'amuse toujours beaucoup quand on se renvoie la balle. Ça prouve qu'au fond, ni le philosophe ne l'assume, ni le savant ne l'assume. Et c'est rhétorique. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Des thèses très sérieuses montrent qu'on a été beaucoup trop loin et qu'on revient à se dire qu'est-ce que c'est. Surtout depuis le moment où on sait que le chiffre de l'homme est donné dès le premier moment de la conception biologique. Parce qu'on disait que l'évolution est dépendant de la gestation. Or, si le chiffre est donné dès le premier moment, on ne voit plus à quel moment se peut faire l'évolution. Il n'y a plus de temps pour l'évolution. Et quand on a dit ça, Roustan lui-même a dit, il faudra tout reprendre. Il a dit ça à la fin de sa vie. Il faudra tout reprendre sur cette question d'évolution. Alors qu'il était un évolutionniste très très fervent pendant sa vie. Et à la fin de sa vie, il a dit ça. Donc vous voyez, c'est toujours très très délicat. Alors, le problème de l'évolution, on regarde la philosophie du vivant. Mais pour moi, c'est un jugement de sagesse. Les frontières philosophiques, c'est un jugement de sagesse. Je ne peux qu'un point de vue de sagesse traiter cette question et voir que le passage de l'animal à l'homme au plan proprement philosophique dans un jugement de sagesse est inacceptable. Tout simplement. C'était des grosses discussions entre Dominicains au moment où on en parlait beaucoup, beaucoup. Alors je me suis toujours trouvé devant des Dominicains avant-garde qui ne devaient qu'une seule chose, c'est d'être de ceux qui étaient entièrement pour l'évolution. Alors j'ai entendu une fois en récréation, on entendait des choses pas mal, d'un Dominicain très fervent pour l'évolution, disant en ma présence, et je savais très bien que c'était dans ma présence qu'il le disait, celui qui refuse l'évolution, le passage de l'animal à l'homme, est en état de péché mortel. Alors à ce moment-là, je lui dis merci, mon cher père, de pouvoir creuser. de l'homme si loin. Et puis alors, une autre fois, c'était à Fribourg. Sur l'évolution. Et le prieur de cette époque était un fervent évolutionniste. Alors je lui ai dit, en récréation là encore, parce que là on pouvait dire des blagues. Et je lui ai dit, ah, c'était très éclairant la conférence hier. Très, très éclairant. Enfin, j'ai compris le péché originel. Donc qu'est-ce que vous avez dit? Oui, ça m'a beaucoup éclairé. Beaucoup éclairé. Parce que quand Adam, puisqu'il s'agissait d'Adam, du premier homme, quand Adam a compris que sa mère n'avait pas la même dignité que lui, il l'a plus honoré. Honore ton père et ta mère. Il a tourné le dos en disant chut. Alors à ce moment-là, il dit furax, je me dis. Il ne faut pas regarder si près, je dis au contraire, il faut regarder très près. Il s'agit de l'évolution, il s'agit d'un problème de philosophie du vivant. On a des impasses impossibles. Sauf qu'il faut tout le temps dire, écoutez, là-dessus, je me tais. Parce qu'il n'y a rien de tel pour mettre les gens en fureur. Comme toujours, une fois quand c'est des théories très, très... C'est pas une théorie, mais quand il s'agit pour certains, c'est une théorie. Mais je crois que le passage de l'animal à l'homme n'est pas expliqué. Alors, le grand argument est celui-ci. Tous les évolutionnistes reconnaissent que c'est un cas très extraordinaire. Les traces. positivisme supprime cela. Parce qu'il veut que tout provienne de la science. Alors dès que vous montrez qu'entre la science moderne et la réalité, il y a un abîme, que la science n'est pas adéquate à la réalité. Elle dit quelque chose de la réalité, mais elle abstrait. Alors à ce moment-là, vous pouvez montrer qu'il peut y avoir un autre type de connaissance que la connaissance scientifique, qui est la philosophie. Et que la philosophie seule peut parler de Dieu et de l'âme. Pour éviter le positivisme. Parce que je crois que c'est l'ennemi numéro un, vous voyez. Le Saint-Père le souligne très fort, ça. Le rationalisme, le positivisme. Qui est l'ennemi numéro un de la philosophie. Parce qu'on a voulu chasser la philosophie. Donc chasser la sagesse. Supprimer et mettre uniquement la science, les sciences observables ou les sciences mathématiques. Alors, on continue. Je constate par mon expérience que connaître est différent d'aimer. Et l'amour, je le situe à différents niveaux. Parce que je peux avoir l'expérience d'un amour passionnel. Il faut avoir cette expérience-là. De l'irascible et du concupiscible. L'irascible, quand on se met en colère devant une injustice. Et c'est un devoir de se mettre en colère devant des injustices. On n'a pas le droit de les tolérer. Et le concupiscible, on en a encore plus d'expérience. Quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience de son concupiscible, c'est triste. C'est l'insensibilité. Et comme dit le vieux philosophe, l'insensibilité, c'est la chose la pire. On a l'expérience quand même de ce que c'est que le concupiscible à l'égard du chocolat pendant le carême, à l'égard de choses qu'on aime bien, pour un grec le bon vin et pour un suisse le bon chocolat. Manifestation de cet appétit spirituel. vous l'empêcher de le prendre, il se met à crier. C'était lui. Vous voyez, le bien, on le prend pour soi. Ça, c'est très curieux. C'est tout à fait autre chose que la connaissance. La connaissance, il n'y a pas du tout cette appartenance. C'est pour ça que l'amour instinctif ou l'amour passionnel est quelque chose qui nous saisit si profondément et qu'on dit couramment que l'appétit, c'est l'appétit du sujet, c'est-à-dire l'appétit de la personne, l'appétit de l'individu. La faculté d'aimer au niveau sensible, passionnel, au niveau spirituel. ce qu'il veut. On est donc dans l'ordre de l'efficacité. Il y a donc quelque chose de très important à saisir. Dès que je veux analyser un peu ce que c'est que l'amour, je vois que l'amour spirituel, c'est un don de soi. Et parce que c'est un don de soi, on comprend que la conséquence, c'est de se mettre au service de celui qui nous aime. C'est la conséquence directe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Puisque la conséquence de l'amour n'est pas l'amour. Se mettre au service de quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Mais c'est manifester son amour. L'amour spirituel implique la connaissance. Ça, on peut le dire tout de suite, comme tout appétit vital, qu'il s'agisse de l'amour volontaire, spirituel, ou de l'amour instinctif, ou de l'amour passionnel. Le bien qui n'est pas moi, vers le bien qui est peut-être une autre personne. Dans l'amour spirituel, je me porte vers un bien personnel, vers une personne. Cet amour spirituel se porte donc sur une personne qu'on connaît. Alors, quelles sont les relations entre la connaissance et l'amour? Puisque l'amour n'existe qu'à partir de la connaissance. Quand j'aime, je suis attiré vers le bien. Le bien spirituel, quand il s'agit de l'amour d'amitié. Yeah. aimer la connaissance du bien. Mais aimer la connaissance du bien, c'est me replier sur moi-même. Et c'est la connaissance du bien que j'aime. Je suis un chercheur de ce que c'est que le bien. J'aime la connaissance du bien. Mais ce que j'aime, le réalisme de l'amour, c'est d'aimer la personne bonne que je connais. Donc, la connaissance est une condition sine qua non pour aimer. Mais la connaissance ne spécifie pas l'amour. Ceci, c'est capital à bien comprendre. Parce que vous comprenez, dans l'amour d'amitié, si c'est la connaissance qui spécifie. Vous voyez tout de suite le problème. Je t'aime dans la mesure où je te connais. C'est la connaissance qui spécifie. Je t'aime dans la mesure où je te connais. Donc, si jamais je découvre subitement dans quelqu'un qui n'en peut plus une fêlure en lui, c'est plus le même homme. Il est trop fatigué. À ce moment-là, je risque toujours de connaître l'autre dans sa fragilité. Ah, enfin, je te connais. Je te connais dans ta fragilité. Tu m'aimes. C'est possible.